France Inter.
Aujourd'hui, bricolage du vivant, jusqu'où ira le génie génétique, raconté par
Jean-Baptiste de Panafieux, écrivain scientifique.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
C'est une histoire qui commence comme un film de science-fiction et qui pourtant s'est déroulée dans la vraie vie, dans un laboratoire à Shenzhen en Chine. En novembre 2018, un jeune chercheur sûr de lui, He Zhangku, convoque les journalistes du monde entier dans une vidéo postée en ligne. Il annonce avoir fait naître deux jumelles dont il a modifié l'ADN avant leur naissance, leur nom de code Lulu et Nana, son objectif, les rendre résistantes au virus du sida. Pour la première fois dans l'histoire humaine, un homme venait de franchir la frontière entre soigner et fabriquer la vie. Les réactions furent immédiates, les uns crièrent au génie, les autres à l'abomination. Dans les journaux, on parla du Frankenstein chinois, car ces deux petites filles n'étaient pas seulement des enfants, elles étaient le symbole d'une ère nouvelle où le génome humain devient une matière à modeler. Le scientifique affirmait avoir agi pour le bien des familles. Il évoquait la promesse d'un monde sans maladie, mais il avait aussi désobéi à toutes les règles éthiques internationales, contourné les autorités chinoises et engagé une expérimentation dont nul ne pouvait prévoir les conséquences. Quelques semaines plus tard, il fut arrêté et son laboratoire fermé. Il avait ouvert en attendant une boîte de Pandore que personne ne savait refermer. Depuis, Lulu et Nana grandissent quelque part en Chine, dans le secret. Personne ne connaît actuellement leur état de santé. Personne ne sait non plus si leurs gènes modifiés se transmettront à leurs enfants. 7 ans après cette affaire qui avait fait trembler la planète scientifique et 3 années de prison plus tard, le chercheur chinois qui avait osé modifier le génome de 2 bébés tente aujourd'hui un retour sur la scène publique. Il promet désormais de lutter contre la maladie d'Alzheimer, parle d'erreurs passées, mais continue de s'exprimer en homme persuadé d'avoir eu raison trop tôt. Et c'est bien là tout le vertige que soulève ce cas. Que se passe-t-il lorsque le vivant devient un matériau comme un autre, quand, après avoir modifié les plantes et les animaux, l'humanité se met à bricoler elle-même? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner quand le vivant devient un champ d'expérimentation? C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Jean-Baptiste de Panafieux.
Bonjour.
L'histoire de ce chercheur chinois qui a modifié génétiquement des bébés est l'une de celles vertigineuses que vous racontez dans ce livre « Bricoler le vivant, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» publié aux éditions Duno. On ne sait rien de ces deux petites filles là aujourd'hui ?
Non, mais il semble que le transfert de gènes n'ait pas été aussi précis que ne le prétendait le médecin en question.
Oui.
En fait, on arrive à beaucoup mieux insérer les gènes à des endroits précis aujourd'hui, mais il y a quand même quelques incertitudes. Et il semble que dans leur cas, il y a eu des choses qui ne soient pas passées exactement comme prévu. Donc on n'en sait rien.
Et avec quelles conséquences, du coup, on ne sait pas.
On n'en sait rien.
Ouais. Est-ce que ces deux premiers humains génétiquement modifiés ont provoqué quand même un électrochoc et une réflexion à l'échelle internationale? Parce que l'électrochoc, on s'en souvient, il a eu lieu, ça a été extrêmement commenté, mais est-ce que pour autant, il y a eu une réflexion qui a suivi?
Oui, il y a eu des réflexions. Il y a eu, par exemple, un congrès entre scientifiques il n'y a pas très longtemps sur la question aux États-Unis. Et on a interrogé les chercheurs sur est-ce que c'était possible, est-ce que c'était souhaitable de modifier le génome. Je le rappelle, en France, c'est interdit. Mm-hmm. C'est clairement interdit. Les scientifiques étaient partagés. Certains disent non. C'est de l'eugénisme, il ne faut absolument pas aller dans cette direction. D'autres disent, pour guérir des maladies graves, quand même, ça pourrait être intéressant. Et puis d'autres disent, même pour des petites maladies, peut-être qu'on peut aller un peu dans cette direction. En fait, la boîte est ouverte.
Ouais, donc la communauté est assez divisée quand même, hein,
ouais,
sur
ouais.
Cette question. Depuis quand, d'ailleurs, Jean-Baptiste de Panafieux, l'humanité bricole-t-elle le vivant? Et en quoi le génie génétique d'aujourd'hui s'inscrit dans cette histoire-là?
C'est une très ancienne histoire. On peut considérer que, avec le début de l'agriculture, le début de l'élevage, le début de la modification des plantes pour pouvoir les cultiver, on a commencé à transformer le vivant.
Ouais.
Ce qu'on ne faisait pas avant. Ça, c'est clair.
Et la nouveauté, alors aujourd'hui, c'est quoi par rapport à ces temps très anciens?
Dans ces temps très anciens, on faisait les choses lentement, puis sans... enfin, il y avait une partie de l'action qui était involontaire, dans le choix des céréales, en fonction de leur de la période de pousse ou de la taille des céréales. Et puis, il y avait certainement aussi une part volontaire de choisir, par exemple, les animaux les plus dociles, ceux qui supportaient le mieux les humains. Mm-hmm. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'on agit sur des points très très précis, gène par gène, en fonction des objectifs qu'on se donne.
Qu'est-ce qu'on entend alors justement par génie génétique ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ?
Alors, le génie génétique, c'est l'idée qu'on transforme les gènes, on les modifie, on les inhibe complètement, ou au contraire on les renforce, ou on les modifie simplement, ou on en ajoute de nouveau. En tout cas, on agit sur l'ADN pour obtenir des résultats concrets sur les organismes qui ont été modifiés.
Et ça concerne quoi ? La médecine, mais pas seulement ? L'agriculture, justement,
l'agriculture, la recherche fondamentale, la recherche fondamentale, et puis l'industrie dans tous les domaines. Autant la fabrication de bactéries modifiées qui peuvent manger du bois, que des poissons fluorescents pour faire joli dans les aquariums.
Alors, parmi les applications les plus spectaculaires, parce que vous citez beaucoup d'exemples dans cet ouvrage, on trouve la désextinction. C'est la tentative de faire renaître des espèces disparues. Quelle est la logique scientifique là-dedans ?
Alors, l'idée, c'est que on peut retrouver de l'ADN fossile. De l'ADN, enfin, il n'est pas transformé en fossile, c'est de l'ADN qui est toujours de l'ADN,
oui,
qui est lisible maintenant.
Donc, qui a été préservé par des conditions particulières.
Oui, hein. Parce que c'était très sec ou très froid. Dans certaines conditions, il se conserve bien. Et notamment les mammouths trouvés gelés dans le sous-sol de l'Alaska ou de la Sibérie ont encore des cellules mortes, oui, mais qui contiennent encore de l'ADN, qui peut être lu. Il y a les travaux de Svante Paabo qui a inventé la paléogénomique, c'est-à-dire le travail sur cet ADN ancien. Et on peut lire les gènes, on peut les resynthétiser et les insérer dans des génomes d'animaux actuels.
Donc, par exemple, le mammouth, effectivement, le mammouth laineux.
Le mammouth, on a pratiquement le génome, pas entier, mais on a de grands bouts du génome reconstitué du mammouth laineux.
Et ça intéresse des entreprises, c'est-à-dire dans le but peut-être de recréer un mammouth tel qu'il était notre sol il y a 10 000 ans ?
Il y a des dizaines, peut-être des centaines de millions de dollars qui sont investis dans ces travaux. Donc oui, ça intéresse des entreprises.
Ouais. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de ressusciter un animal absolument identique à ceux qui vivaient justement il y a 10 000 ans ou plus ? Ou d'avoir quand même un hybride ?
Alors ça, c'est un peu compliqué d'obtenir un mammouth complet à partir de son génome, d'autant plus qu'il n'est pas complet. Par contre, on peut envisager de modifier des éléphants d'Asie, qui sont des parents assez proches du mammouth, pour en changer un certain nombre de gènes et les transformer en mammouth.
Oui.
Pas les transformer à l'état adulte, mais transformer des embryons d'éléphants pour obtenir des embryons d'éléphants fantômammouths qui grandiraient et donneraient des mammouths.
Sauf que cet animal vivait dans des environnements très froids, à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure où justement les sols gelés de Sibérie, par exemple, sont en train de disparaître. Ça paraît complètement crétin, en fait, de vouloir reconstituer un mammouth, non ?
On peut voir ça comme ça. les gens qui ont cette idée disent qu'au contraire, les mammouths pourraient remplacer par leur simple action en mangeant la nourriture qu'on leur donne, finir par remplacer les arbres par des steppes qu'il y avait à l'époque, et modifier le climat, et ce serait des acteurs qui empêcheraient le réchauffement climatique.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment de la poudre aux yeux.
Ouais.
Alors ces entreprises ont déjà fait parler d'elles, on a parlé d'un loup, du loup sinistre qui avait été reconstitué il n'y a pas très longtemps. En fait, ce sont des loups qui ont été modifiés par quelques gènes, simplement.
Ouais. Il y a également le dodo de Madagascar, hein, cet oiseau emblématique disparu. Là aussi, il y a des projets là-dessus.
Alors, le dodo, il y a des projets. On a retrouvé l'ADN du dodo et reconstitué. Et on projette de transformer des pigeons de Nicobar, qui sont les parents les plus proches. Ça ne ressemble pas vraiment à des dodos.
C'est des gros pigeons ?
C'est des pigeons normaux qui volent très bien. Mais qui sont proches de l'ancêtre du dodo.
Oui.
Et on transformerait les dodos. C'est probablement le projet le moins fou, parce que on peut avoir des œufs, etc. Pour le mammouth, il faut un utérus. Alors, faire ça dans des éléphantes d'Asie, qui sont une espèce protégée, pour lesquelles on n'a pas la moindre idée de combien d'embryons pourraient être viables, etc., c'est horriblement compliqué. Il faudrait des utérus géants.
Ouais. On se souvient de Dolly, de la brebis Dolly, dans les années 90, qui avait fait, pareil, la une des journaux du monde entier. C'était devenu l'animal le plus connu au monde à ce moment-là. Donc c'était un clonage. On avait cloné Dolly à l'époque. Est-ce qu'on a continué depuis sur d'autres animaux ou pas ?
Alors, ça a été un choc pour la communauté scientifique. Puis les questions, c'était, est-ce qu'on ne va pas bientôt cloner l'être humain ?
Oui.
Bon, alors ça, il y a des tas de gens qui ont dit qu'ils l'avaient fait. Mais bon, ça c'est pas fait, de fait. Et puis, la technique est maintenant vieillotte.
Oui.
Alors, elle est toujours employée pour cloner des ersatz des animaux favoris.
Domestiques.
Domestiques, des chiens et des chats. Les gens utilisent leurs cellules pour essayer d'avoir une copie de leur animal favori. Et il y a des compagnies qui font ça, ça vaut 50 000 dollars.
C'est ça.
On peut le faire en Corée et dans d'autres pays. Et ça se fait.
Ouais. Donc ce sont des pratiques qui ont lieu quand même. Hein.
Ah ça se fait. Alors c'est pas intéressant d'un point de vue pour l'élevage, ça sert à rien.
Ouais. Plus personne. Mais c'est du clonage quand même.
Mais c'est du clonage.
Ouais,
oui.
Absolument.
Ouais,
ouais. Passons aux OGM, Jean-Baptiste de Panafieux. Les promesses initiales de la transgénèse, est-ce qu'elles ont été tenues sur ces organismes génétiquement modifiés qui eux aussi ont fait beaucoup couler d'encre hein, quand même.
Alors oui, ça c'est un sujet dans lequel je me suis replongé.
Ouais.
Je dis replongé parce qu'on a un peu oublié les OGM aujourd'hui. Il y a pratiquement pas d'OGM cultivés en Europe. Pas du tout en France.
Mais ailleurs qu'en Europe, il y en a par contre.
Ailleurs, il y en a plein. Ouais. Tout le soja qu'on achète au Brésil est OGM. Une grande partie du maïs qu'on achète est OGM. Bon, dans le monde. Alors, les promesses, elles étaient assez fantastiques. Il y avait par exemple l'idée qu'on pourrait mettre des gènes précis dans des plantes cultivées pour leur permettre d'utiliser l'azote de l'air, ce qui permettrait d'éviter d'utiliser de l'azote d'engrais synthétiques qui polluent, etc.
Ça ne marche pas.
Toujours pas faire. Mmh. Il y a des gens qui continuent à travailler dessus, mais les plantes OGM réellement cultivées, à 99%, c'est des grandes cultures de maïs, de soja, de colza et de coton.
Beaucoup de discussions à l'époque, en tout cas quand la technologie est arrivée sur le devant de la scène, sur les dangers justement, à la fois sur la santé humaine mais aussi sur l'environnement. Je vous propose d'écouter un extrait du 20h de France 2, c'était en 2007 sur le maïs OGM justement.
Le maïs Monsanto 863 est né de la recherche privée américaine dans les années 80. Sa particularité, un gène artificiel qui empêche les attaques d'insectes sur les cultures. Résultat, le petit coléoptère est terrassé et les rendements agricoles bien meilleurs. Aujourd'hui dans le monde, les OGM représentent 102 millions d'hectares cultivés, 4 fois la surface agricole de la France. Des millions de consommateurs depuis 15 ans et selon le fabricant, pas un problème de santé signalé.
Vous confirmez ça, Jean-Baptiste de Panafieux, ou pas ? Parce que ça reste un sujet de controverse hein, sur l'innocuité réelle des OGM.
Oui, ça reste un sujet de controverse, mais de manière globale, on n'a pas vu d'effets dramatiques nulle part.
Mm-hmm.
On a vu des effets environnementaux. C'est-à-dire que des plantes ont été modifiées à la suite de l'introduction de ces OGM.
Parce qu'elles se trouvaient à proximité de plantes
OGM. Certaines sont modifiées par les gènes des plantes OGM. D'autres ont évolué spontanément et sont devenues résistantes aux produits que les plantes OGM fabriquaient.
Donc c'est pas sans effet.
Ça c'est sûr. Sur l'environnement, il y a eu plein d'effets. Bon, qui sont proches de ce qu'on voit avec l'agriculture normale, traditionnelle.
On parle de ces nouvelles techniques génomiques aujourd'hui, les NTG, qui relancent aussi le débat. En quoi est-ce qu'elles diffèrent des OGM classiques, précisément ?
Alors, à l'époque, quand on insérait un nouveau gène, on l'insérait dans l'embryon de la plante, et puis il s'insérait là où il pouvait. Donc, il pouvait y avoir des modifications imprévues.
Mm-hmm.
C'était d'ailleurs une des inquiétudes qu'il y avait. Que le gène modifie des produits et les rende toxiques, par exemple, des produits de la plante. Alors aujourd'hui, la différence, c'est qu'avec la technologie CRISPR-Cas9, dont on parlera peut-être...
Les ciseaux moléculaires.
On peut insérer de façon beaucoup plus précise les gènes dans un organisme. Et donc, ce genre de risque est moindre.
Est-ce qu'il faut les soumettre à la même réglementation que les OGM, justement, ces nouvelles technologies-là, génomiques, ou pas ?
C'est un débat infernal. Depuis des années, il y a procès sur procès et des décisions qui doivent être prises au niveau européen. Et c'est très compliqué, en réalité. Parce que la réglementation ancienne disait qu'il fallait que le génome soit modifié de façon complètement artificielle pour qu'on puisse parler d'OGM. Et donc, il y a une réglementation précise. Et là, les entreprises qui font ça disent, ben non, ces plantes-là, par exemple, on utilise des gènes provenant de la même espèce, et puis on va les placer très précisément. On pourrait obtenir le même résultat par des croisements traditionnels, sauf qu'on va les obtenir en quelques mois au lieu de mettre 10 ans. Et donc, ce n'est pas des OGM. Et là, on n'est pas d'accord là-dessus, évidemment.
On va voir dans un instant avec vous comment le génie génétique transforme aussi la médecine. Jusqu'où peut-il aller lorsqu'il s'agit de modifier l'humain? Et puis, vous répondrez également aux messages et aux questions qui arrivent pour vous, Jean-Baptiste de Panafieux, sur la page de La Terre au Carré. Nos réseaux sociaux et vos messages vocaux pour vous entendre directement. Laissez-nous vos petites notes vocales sur l'application Radio France.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Moi, comme vous savez, je m'occupe de médecine génétique, je fais de la recherche en génétique, et la question qui nous est posée, c'est est-ce que cette nouvelle manière de créer de nouvelles variétés améliorées comporte en soi quelque chose de dangereux par rapport aux anciennes méthodes? Est-ce que le génie génétique en soi comporte des dangers dans cette manière qu'elle veut utiliser pour améliorer les variétés? Il faut le voir au cas par cas. Et je dis en soi, le fait d'utiliser le génie génétique pour améliorer une variété ne fait pas obligatoirement un produit dangereux. Il faut l'évaluer naturellement.
La voix du généticien Axel Kahn, c'était en 1997. Jean-Baptiste de Panafieux, vous qui publiez Bricoler le vivant, qu'est-ce qui pourrait mal tourner aux éditions Duno. Cette médecine génétique dont parle Axel Kahn dans cet extrait, on va s'y intéresser maintenant avec les applications d'ailleurs médicales, la transformation de l'humain. Le décryptage du génome humain a ouvert des perspectives évidemment assez gigantesques pour la médecine. Quels sont les domaines les plus transformés par ces découvertes aujourd'hui? Et depuis d'ailleurs cette archive d'Axel Kahn en 1997, il s'est passé tellement de choses.
Oui, à l'époque, c'était un peu le projet génome humain, le décryptage complet du génome humain était en cours, était en voie de finition. Ça s'est terminé en grossièrement en 2001, puis finalement en 2003 ou 2004. Ça a beaucoup changé de choses. Alors, notamment dans le domaine des maladies génétiques, bien entendu, ça a beaucoup facilité la recherche des causes de ces maladies, mais aussi dans d'autres domaines comme la recherche contre le cancer.
Donc, ça a considérablement amélioré la connaissance, la recherche, effectivement, mais est-ce que ça a donné lieu à des traitements aussi, à des guérisons de certaines maladies, ou est-ce qu'on est encore un peu réservé là-dessus ?
Alors, on commence à voir des effets positifs, réellement positifs, c'est-à-dire des succès. Certaines maladies génétiques, comme la drépanocytose, qui touche beaucoup d'enfants, il y avait eu des essais de thérapie génique à la fin des années 90, qui n'avaient pas été des succès complets, parce qu'il y avait de temps en temps des effets secondaires. Les gènes ne s'inséraient pas là où on voulait précisément, et il pouvait y avoir des tumeurs qui se développaient à cause de ça. Et là, maintenant, avec la technologie dont je parlais, CRISPR-Cas9, ça commence à donner de très bons résultats, et il y a des patients qui ont été apparemment guéris. Alors, il n'y a pas beaucoup de recul encore, mais apparemment les résultats sont là.
Mais sur une pathologie particulière,
sur certaines pathologies.
Ouais. Alors comment ça fonctionne la thérapie génique exactement, Jean-Baptiste de Panafieux, pour comprendre pareil le système?
Alors il y a plein de façons de faire différentes, mais une des techniques, par exemple si ça concerne des cellules sanguines, on va prélever ces cellules sanguines, on va les modifier in vitro, en tube à essai, avec un nouveau gène qui va remplacer l'ancien gène, où on va simplement modifier la partie qui est abîmée de l'ancien gène.
Donc c'est vraiment corriger le gène défectueux, en fait.
Corriger le gène défectueux, et puis faire proliférer ces cellules modifiées et les réinjecter dans le patient. Alors dit comme ça, ça paraît simple dans le principe, c'est beaucoup plus compliqué, mais ensuite, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que ce qui est modifié, c'est un certain nombre de cellules du patient, mais pas l'ensemble de ces cellules, et pas ces cellules sexuelles, ovules ou spermatozoïdes. Et donc, la modification ne sera pas transmise aux descendants.
C'est ultra ciblé, en fait, hein, c'est ça. Hein.
C'est complètement ciblé.
Ouais. C'était pas le cas, d'ailleurs, avec les deux jumelles chinoises dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait cette crainte que ce soit transmis précisément à la descendance. Hein.
C'était là où il y avait le problème. Sinon, ouais. Ça n'aurait pas été un problème majeur comme ça.
Donc, vous dites que les traitements existent déjà. Vous parliez de la drépanocytose, mais ce sont des traitements qui sont hors de prix aujourd'hui. Hein.
C'est hallucinant. C'est des millions de dollars.
Comment on explique ça ?
Par personne.
Pourquoi de tels montants, en fait ?
Alors, les compagnies qui créent ces médicaments ont des années de recherche derrière.
Mmh. Donc ça coûte très cher en investissement.
Et derrière aussi, des actionnaires. Mmh. Et donc il y a une recherche de profit qui est évidente. Ces compagnies sont là pour faire de l'argent aussi.
Le coût du traitement pour la drépanocytose, par exemple, on peut l'évaluer
Il me semble que c'était de l'ordre de 3 millions de dollars par personne.
Ouais.
Et donc, les autorités sanitaires européennes ne veulent pas rembourser ce genre de médicaments.
D'où le peu d'usage encore, le peu d'utilisation, alors.
Alors ça, c'est une des limites, ça, c'est sûr. Il y a eu des colloques là-dessus avec des gens qui proposent de créer un nouveau modèle de création de ces médicaments avec des interactions beaucoup plus fortes avec le public, avec les laboratoires publics, de manière à baisser le coût. Et eux disent que on pourrait arriver à de l'ordre de 100 000 euros pour un traitement, ce qui devient très coûteux, mais plus raisonnable.
En 2017, des chercheurs étaient parvenus, grâce à de la technologie CRISPR-Cas9, donc les fameux ciseaux moléculaires, à obtenir des résultats très prometteurs concernant une autre maladie génétique, la maladie de Duchenne. On va écouter Matteo Bovolenta à l'origine de cette première.
Je travaille dans une forme d'hémiopathie de Duchenne qui représente à peu près les 15% d'hémiopathie. Et il y a une mutation qui porte deux fois une partie du gène. Maintenant, avec les ciseaux moléculaires qui ont été développés, c'est possible de cibler des séquences qui sont doublées. Et du coup, Cas9 coupe l'ADN dans cette partie-là et va éliminer spécifiquement cette partie qui cause la mutation.
Voilà, donc 2017, et il s'agissait à l'époque pour cette myopathie de Duchenne d'une preuve de concept, hein, et les chercheurs ensuite ont travaillé à la transposition de cette première en protocole préclinique. Donc là, on voit bien que ça demande aussi beaucoup, beaucoup de temps.
Hein. Oui, 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 mais il y a des milliers d'essais cliniques qui ont été réalisés ou qui sont en cours. C'est en ce moment.
Ouais, mais à l'échelle des malades, évidemment, c'est un temps qui nécessite beaucoup de patience, malheureusement.
Oui, il n'y a rien qui soit encore des traitements de masse.
Ouais. Jean-Baptiste de Panafieux, vous parlez aussi de la médecine régénérative. Quelle est la révolution apportée par les cellules souches pluripotentes ?
Alors, dans le cas des cellules souches pluripotentes, ça a été un bond absolument majeur, parce que nos cellules sont des vieilles cellules qui ne peuvent plus donner grand-chose d'autre que ce qu'elles font. Elles le font très bien, mais elles ne peuvent rien donner d'autre. Les cellules qui peuvent donner plein de sortes de cellules différentes, ce sont les cellules embryonnaires. Mais on n'a pas le droit de se servir des cellules embryonnaires. Alors maintenant, on a le droit pendant 14 jours, c'est très encadré, mais ça avait été tout un débat au début des années 2000. Et puis, est arrivé un chercheur japonais.
Shinya Yamanaka.
Yamanaka.
C'est son nom.
Merci. A trouvé comment modifier des cellules banales, de la peau par exemple, ou des cellules des muscles, avec 4 gènes. Il a modifié ces 4 gènes et ces cellules sont redevenues comme si elles étaient embryonnaires, capables de donner n'importe quel type de cellules.
Donc pluripotentes en fait, c'est ça.
Pluripotentes.
Hein, c'est ça ce
terme.
Et
donc, on peut envisager maintenant un travail à part d'utiliser ces cellules pour réparer des organes, remplacer des organes. Enfin, pour l'instant, c'est de l'ordre de...
C'est ça, pas encore entièrement, théorique. Mais on s'en approche.
On s'en approche.
Hein, c'est ça l'idée. Les organoïdes, hein, donc c'est les petits organes en boîte de pétri quasiment, hein, c'est ça ?
Alors, ce sont les tout petits organes, hein, ouais. Ça fait moins d'un millimètre en général.
Ils sont déjà utilisés en recherche biomédicale ou pas ?
Alors, c'est utilisé en recherche, oui. Ouais. On fait beaucoup de travaux avec des tout petits, donc des simili-organes. En fait, ça permet d'étudier beaucoup plus facilement l'action des médicaments ou des gènes sur des groupes de cellules qui commencent à ressembler vaguement à des organes. Alors, c'est minuscule, mais il y a quand même plusieurs cellules, voire plusieurs types de cellules.
Ce qui pourrait aussi permettre de se passer de la recherche sur l'animal ?
Alors c'est une des pistes pour éviter de travailler sur les animaux, évidemment.
Mmh. Alors face à la pénurie de greffons, vous racontez également que certains chercheurs envisagent la xénotransplantation, c'est-à-dire la greffe d'organes animaux. Où est-ce qu'on en est ?
Alors, ça, c'est une vieille idée.
C'est avoir le cœur d'un cochon, par exemple.
Exactement.
Ouais, mais
exactement.
Ça existe déjà. Hein.
Alors, ça existe plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. Il y a beaucoup d'essais qui sont faits, mais pour l'instant, ça n'a rien donné d'effectif.
Mais il y a des patients qui ont été greffés avec un cœur de porc, quand même.
Il y a des patients qui ont été greffés avec un corps de porc et qui sont morts ensuite.
Ouais.
Alors, pas forcément de la greffe elle-même et des suites de l'opération. Il y a tout récemment, il y a une femme qui a été greffée avec un rein de porc et la différence. Alors ça a tenu deux mois, je crois.
Oui.
Après, il a fallu lui retirer, mais on a pu lui retirer. Elle est revenue à un traitement classique.
Oui. Mais donc, il y a quand même des limites à la compatibilité entre l'humain et d'autres animaux.
Bah, évidemment,
hein.
les animaux sont tous différents de nous, surtout les animaux qu'on utilise, qui sont les porcs, qui, contrairement à ce qu'on croit parfois, ne sont pas du tout proches de nous, mais ils sont juste plus faciles à élever. On n'a pas le droit d'élever des chimpanzés pour ça.
Mm-hmm.
Et puis, les chimpanzés auraient des virus dangereux. Les porcs en ont aussi, mais on peut les éliminer. Ça a été éliminé grâce à CRISPR-Cas9 aussi.
Ouais.
Et on les modifie en leur rajoutant quelques gènes humains et en retirant quelques gènes porcins, jusqu'à avoir des porcs humanisés, entre guillemets, mais ils ne sont pas encore suffisamment
c'est
pour
ça.
Que leur cœur soit vraiment, ou leur rein, utilisable pour l'instant.
Quand vous parlez de chimère homme-animal, vous pensez à quoi, Jean-Baptiste de Panafieux, et jusqu'où peut-on aller dans ce domaine ?
Ben, on peut faire des mélanges d'embryons humains et animaux, ou de donner des gènes humains à un animal, ou des gènes animaux à un humain. Alors ça, des gènes animaux, dans un embryon humain, c'est interdit.
Oui.
En France, c'est complètement interdit. Par contre, mettre des gènes humains dans un animal pour l'humaniser, pour faciliter par exemple les greffes, ça c'est autorisé, jusqu'à un certain point, parce que là aussi, les chercheurs s'interrogent. Qu'est-ce qui se passerait si on greffait des gènes qui interviendraient sur le cerveau de l'animal ? Et si on arrive à un animal dont le cerveau est légèrement humanisé, commence à ressembler à un cerveau humain ? Qu'est-ce qu'on fait de cet animal ?
Grosse question éthique, hein, effectivement.
Il y a beaucoup de questions de ce type-là dans ce domaine.
Toutes ces avancées, Jean-Baptiste de Panafieux, elles posent la question de l'amélioration de l'humain. Pourquoi ce rêve ancien est-il aussi marquant, toujours aujourd'hui ?
Ça a toujours été un rêve extraordinaire. On n'est quand même pas très bien foutu. On a des maladies, des malformations, et on se dit on pourrait essayer d'améliorer l'humanité.
Ouais.
Ça, c'est le rêve eugénique qui existe depuis l'Antiquité, probablement.
Ouais.
L'humain.
Certains le poussent très très loin, hein, quand même. Hein.
Alors,
il y a à la fois l'idée de l'eugénisme, l'idée du transhumanisme aussi.
Alors, l'eugénisme, c'est améliorer l'humain, et avec les gènes, il y a des gens qui y pensent à nouveau. Le transhumanisme, c'est d'aller au-delà de l'homme, et non seulement l'améliorer, mais en faire quelque chose de plus, de nouveau.
Allez, on verra dans un instant quelles sont les questions justement éthiques, sociales, sociétales qui se posent autour de toutes ces technologies. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
On est sorti de l'insouciance du déterminisme. On ne peut pas simplement penser qu'on va pouvoir tout expliquer parce qu'on aura justement décortiqué la machinerie qui nous compose. Et il est important à certains moments de faire la part des choses entre, encore une fois, l'émerveillement de la découverte de la richesse du vivant, la connaissance qu'on a de sa plasticité, donc du fait qu'il est constamment changeant en fonction de son environnement, et puis un discours qu'on entend très souvent qui voudrait nous faire croire que tout est fixé d'avance, que tout est prédictible d'avance, que l'ADN ce serait le grand livre de la vie, alors qu'on sait aujourd'hui qu'un gène est tout sauf une prédiction assurée.
Le neurologue Hervé Schneves, ancien président du comité d'éthique de l'INSERM, c'était dans la tête au carré en janvier 2012. Jean-Baptiste de Panafieux, vous qui publiez donc Bricoler le vivant, qu'est-ce qui pourrait mal tourner aux éditions d'Uno. Une réaction au propos d'Hervé Schneves, là, un instant, sur quand il parle de la sortie de l'insouciance du déterminisme.
On a beaucoup cru qu'on aurait des gènes responsables de tel ou tel aspect de notre personnalité, en plus de nos caractéristiques physiques, et qu'on aurait le gène de l'intelligence, le gène de la gentillesse, ou alors le gène de l'homosexualité, ou le gène de la violence. Il y avait plein de
fantasmes tout génétique,
comme ça, tout génétique. On sait que ça ne marche absolument pas comme ça. Rien que pour la taille, il y a peut-être 7000 gènes qui interviennent d'une façon ou d'une autre, mais un tout petit peu chacun dans la détermination de la taille. Donc là, on n'est plus dans le déterminisme, on est dans le hasard complet.
Et quand tu parles de l'ADN comme le grand livre de la vie, vous qui êtes en train de travailler justement sur un ouvrage sur l'ADN...
Oui, c'est ce qu'on a cru à un moment. Alors, il y a beaucoup d'informations dans l'ADN, ça c'est sûr. Mais cette information, elle est totalement dépendante à la fois d'elle-même, c'est-à-dire qu'un gène va être dépendant des autres gènes, ça rend les choses plus compliquées, et puis c'est complètement dépendant de l'environnement, des individus.
Les progrès donc, du génie génétique, ça suscite beaucoup d'enthousiasme, mais aussi énormément d'inquiétude, c'est très partagé finalement. Quels sont selon vous les grands enjeux éthiques de ce début de siècle, toujours sur ces questions, même si on a quand même le sentiment qu'elles font moins la une de l'actualité qu'à une époque où on parlait tellement par exemple des OGM ou de la brebis Dolly. Comment se fait-il qu'on voit moins émerger en tout cas des débats sociétaux autour de ces questions aujourd'hui ?
Alors là, j'aurais un peu de mal à vous répondre. Une des raisons, c'est qu'il y a eu des débats, ils se sont terminés en France, mais il y a des débats très forts dans d'autres pays. Aux États-Unis, la question du choix des enfants en fonction de leur gène, parce qu'on peut analyser les gènes d'un embryon avant transplantation dans notre propre espèce.
Donc on a un catalogue qui nous est proposé, en fait, c'est ça quasiment ? Vous voulez des yeux bleus, des cheveux noirs
Il y a des compagnies qui proposent de choisir la couleur des yeux de vos enfants, leur sexe évidemment, leur intelligence. Alors ça, c'est là par contre, on est dans la publicité mensongère totale.
Ouais, comme les maladies d'ailleurs.
La couleur des yeux, c'est pas mensonger, ils peuvent y arriver. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Plusieurs des enfants de Elon Musk ont été choisis comme ceci. Le résultat est beaucoup moins précis que ce qu'on imagine, mais ce tri des embryons est interdit en France. Il n'y a pas de débat parce que c'est interdit. Il y a eu des débats au moment du vote de la loi bioéthique, mais maintenant, là, on ne fait pas ça.
Ouais.
Par contre, la porte est ouverte. Et ça peut changer dans un avenir plus ou moins lointain.
En France aussi ?
J'imagine, le débat pourrait revenir. Si c'était vraiment possible à un moment, sur la question des maladies graves, se dire on les élimine ou on les élimine pas, c'est quand même une vraie question.
Ouais.
Mais après, une petite maladie, une anomalie bénigne, vous êtes myope génétiquement, pour autant que ça soit génétique, est-ce qu'on va le supprimer ou pas ? Et puis bon, capacité à avoir une peau qui résiste mieux au soleil, ça serait pas mal, je vais choisir ça. Il y a une tentation eugéniste qui est très forte, le voit dans les enquêtes aux États-Unis.
Oui, avec des intérêts économiques évidemment derrière.
Avec des intérêts économiques.
Parce que tout ça, ce sont vraiment des compagnies qui brassent des milliards.
Oui, mais je crois que 45% des gens interrogés disent « Ah oui, si on peut choisir un enfant qui va avoir des bons résultats à l'université, moi je suis pour. »
Donc il y a une acceptation sociétale aussi.
Il commence à y avoir une acceptation.
Depuis la découverte de la structure de l'ADN dans les années 50, donc la recherche évidemment a énormément avancé, est-ce que la question de la biosécurité a suivi Est-ce que ça a accompagné aussi ces questions ou pas ?
Alors oui, il y a eu la création de laboratoires spécialisés, extrêmement sûrs, notamment pour les recherches, la recherche sur les virus ou sur les bactéries dangereuses. Ce qui n'empêche pas des travaux assez inquiétants d'hybridation de virus entre eux. Des gens qui utilisent deux virus un peu dangereux qui aboutissent à un virus super dangereux.
Donc ça, c'est vraiment du bricolage, là.
Là, on est vraiment dans le bricolage. Ouais. Et des gens leur disent, non, il ne faut surtout pas faire ça. Et eux disent, mais si, ça permet de savoir ce qui permettra de lutter contre ces virus. Et les autres disent, vous les fabriquez, ils risquent de s'échapper. Tiens, on a quand même connu ça avec cette hypothèse assez probable
sur le coronavirus.
Du coronavirus qui se serait échappé d'un laboratoire qui était un des laboratoires de sûreté maximale.
Absolument, impeccable.
Donc on voit bien que ça peut arriver.
Quand un comité consultatif national d'éthique demande un moratoire sur des pratiques comme par exemple la modification des êtres humains, est-ce que pour vous c'est un frein à la science ou c'est une précaution vraiment nécessaire aujourd'hui ? Parce que les deux sont défendables finalement.
Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il il doit y avoir des débats, et pas simplement dans les communautés d'éthique, mais aussi plus largement dans la société, sur ce que font les scientifiques. Il y a plein de directions intéressantes dans tous les sens. Mais il y a de l'argent qui est mis dans certaines directions et pas dans d'autres. Ces choix-là, qui est-ce qui les fait ? Comment ça se passe, cette direction donnée ? Alors c'est bien que toutes les directions ne soient pas prévues au départ, parce que la science, c'est ça aussi, c'est d'aller dans des directions imprévues et de trouver des choses nouvelles qu'on n'imaginait pas au départ. Mais malgré tout, on se dit, il devrait y avoir une possibilité de discuter ces choix.
Il faut plus de transparence dans la recherche aussi, Jean-Baptiste de Panafieux ?
Oui.
Parce que si on veut pouvoir en discuter, il faut vraiment savoir ce qui se passe dans les labos aussi.
C'est pas que les laboratoires cachent ce qui se passe. C'est simplement que ça intéresse pas beaucoup de gens et que donc les scientifiques travaillent dans leur coin et personne ne leur demande ce qui se passe. Ouais. Si on leur demande, ils le disent.
Ouais. Vous dites que personne ne décide de la direction que prend la recherche.
Alors si, il y a des directions qui sont données, mais il y a aussi, c'est aussi une balance entre recherche privée et recherche publique. En France, la recherche publique est très importante. Aux États-Unis, la recherche privée a des fonds absolument gigantesques par rapport à ce qui se fait pour la recherche publique.
Et justement, sur les grandes entreprises du numérique, qui s'intéressent aussi à la biologie aujourd'hui, c'est quoi les risques principaux selon vous ? C'est de privatiser une partie du vivant, par exemple ?
Alors, il y a cette idée de privatisation du vivant. Là, il y a eu des débats aussi très importants, mais il y a 25-30 ans, sur la question des brevets. Est-ce qu'on peut breveter un gène ? Alors ça a été plus ou moins tranché, mais ça n'est pas, il y a pas de décision stricte mondiale sûre dans ce domaine-là. Il y a toujours des gens qui essayent de breveter des gènes ou les produits des gènes ou des animaux modifiés.
Mais en tout cas, ces grandes entreprises, elles sont sur le coup. Ça, c'est sûr.
Bah oui.
Ouais. Allons, on passe aux questions, Jean-Baptiste de Panafieux. Une question de Gilles sur l'application Radio France. Est-ce qu'on peut modifier des cellules cancéreuses pour en faire des cellules saines aujourd'hui ?
Alors, les techniques de thérapie génique ont été appliquées à des cellules cancéreuses. On modifie des globules blancs. Alors, c'est la technologie dite CAR-T. Et ces cellules modifiées vont pouvoir aller attaquer les cellules cancéreuses. Alors, on ne modifie pas directement les cellules cancéreuses, mais on permet à des cellules immunitaires de cibler plus précisément ces cellules cancéreuses. Ça commence à donner des résultats dans des leucémies, des maladies des globules blancs. Pour des cancers massifs, des tumeurs, pour l'instant, ça ne marche pas très bien.
Laure nous dit, est-ce qu'il n'est pas complètement fou de dépenser des millions pour recréer un mammouth alors que des espèces disparaissent tous les jours sous nos yeux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se concentrer sur la sauvegarde du vivant ? Question de bon sens quand même.
Je suis assez d'accord, oui. ce qu'il y a, c'est que les entreprises qui essayent de recréer des mammouths et d'autres animaux préhistoriques utilisent ça comme étendard de ce qu'ils font. Et ils trouvent de l'argent, des quantités d'argent absolument phénoménales pour ces projets-là.
Donc c'est des produits d'appel, quoi.
C'est vraiment des produits d'appel.
Gilles nous dit, si des scientifiques d'une dictature décident de créer des clones humains, qui va pouvoir les en empêcher ?
Pour l'instant, disons que des clones humains, même si on le faisait, il faut quand même 20 ans pour obtenir des adultes. Honnêtement, il y a d'autres techniques beaucoup plus faciles pour transformer des gens en soldats prêts à mourir pour une cause.
Une armée de clones, ça prend du temps.
Ça prend énormément de temps, c'est très coûteux, alors qu'il suffit de convaincre les gens que c'est à eux de défendre le dictateur en question. Encore il y a des gens qui savent faire.
Encore deux questions pour terminer. Léa nous demande quelles sont les inventions que vous attendez pour les années à venir, les nouvelles technologies qui pourraient là émerger.
Bon, alors la prévision du futur, c'est pas trop mon domaine.
Il y a déjà des choses dans les cartons, quand même.
Il y a des domaines où on voit les choses aller très vite. Par exemple, la question des implants neuronaux, des puces qu'on insère, soit qu'on pose à l'extérieur de la tête, soit qu'on insère à l'intérieur, et qui sont connectés à des neurones. Et l'idée est de pouvoir... au départ, c'est présenté...
Connecté à des machines, en fait, c'est ça ?
Pour pouvoir piloter un fauteuil roulant, piloter un ordinateur, pour des gens qui n'y arriveraient pas physiquement. À l'inverse, on peut essayer d'imaginer, savoir ce que les gens pensent avec ça. Et ça, c'est des entreprises comme celle d'Elon Musk.
Qui travaille sur ces projets. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Panafieux. Je renvoie sur votre ouvrage Bricoler le vivant, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? C'est aux éditions Dunod. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci.